Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Selon plusieurs analystes, la gestion des fret en RDC constitue un véritable casse-tête pour les services publics de l'État à la matière, à savoir OGFREM et les entrepreneurs. Voilà pourquoi la semaine dernière, l'Office de gestion des fret maritimes, OGFREM, a mis sur pied un nouveau dispositif dénommé Tour des contrôles en son sein pour pallier cette situation. Selon Lems Kamoania, directeur général de l'OGFREM, cette structure assurera la traçabilité de toutes les importations, garantira la couverture de toutes les exportations et assurera donc en temps réel le monitoring du système de suivi des cargaisons. Pensez-vous que ce dispositif mettra fin à la fraude, contribuera-t-il aux impératifs sécuritaires et produira-t-il des statistiques réalistes et fiables? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore le 09 97 06 49 69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook. Vous êtes plus de 4444 à avoir été touchés par ces sujets et 1500 parmi vous l'ont partagé. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Bob Landou et Jiré Mabondo concourent à la production et la réalisation de ces programmes, coordonné et présenté par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le réel plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Le premier, c'est le directeur général AI de l'OGFREM, M. Lems Kamoania. Bonjour.
Bonjour J.R.
C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui en face. Ça fait plusieurs années, on a fait plusieurs émissions des analyses économiques, mais au téléphone.
Plaisir partagé.
Voilà. Votre côté, il y a Monsieur Jean-Marie Numbi Yamba, qui est sous-directeur, tour des contrôles. C'est une nouvelle direction au sein de l'OGFREM. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur Gire.
Voilà. On va parcourir avec vous, on va décrypter le tour de contrôle. Pourquoi avoir choisi les termes ou le nom de tour de contrôle? Ça nous mettrait comme si on est à l'aéroport, tour de contrôle, pour surveiller exactement quoi concrètement?
Oui, exactement, parce que lorsque vous faites allusion à l'aéroport, on peut faire le même raisonnement par analogie. Au niveau de l'aéroport, quand vous avez la tour de contrôle, c'est celle qui surveille les mouvements de tous les avions qui sont censés atterrir sur un aéroport ou ceux-là qui doivent décoller de l'aéroport. De la même manière aussi, comme l'OGFREM, son travail consiste à gérer les frets à l'import et à l'export, nous devons savoir qu'est-ce qui rentre sur le territoire national et qu'est-ce qui sort du territoire national. À ce moment-là, on met en place un dispositif qui nous permet d'assurer la traçabilité et la couverture de toutes les marchandises importées, de même que toutes les marchandises exportées. Et c'est à juste titre que ce dispositif, que nous puissions l'appeler tour de contrôle du fret.
En tant qu'économiste chevronné, pensez-vous que ce dispositif mettra fin à la fraude?
Bien sûr, il faut dire que ce dispositif vient rentrer dans le cadre des missions de l'OGFREM, parce que dans le cadre de nos missions, l'État nous a donné comme mission d'assurer la gestion du fret. Et cette gestion du fret, pour arriver à contrôler toutes les importations et les exportations, nous avons développé une application informatique qui nous permet de saisir les fret déjà à partir de l'étranger, d'avoir tous les éléments qui constituent une cargaison. De même aussi, pour toutes les exportations, nous avons le même dispositif qui est mis en place. Alors, à travers la tour de contrôle, ça nous permet d'avoir non seulement toutes les informations relatives aux marchandises qui sont importées, exportées, la quantité, la valeur, les détails techniques, les types de la marchandise, mais ça nous permet aussi de suivre les mouvements de ces marchandises en temps réel. Par exemple, il n'y a pas de marchandises qui peuvent se perdre en cours de route. Il n'y a pas de marchandises qui peuvent entrer sur le territoire sans arriver au poste douanier qui lui convient. Il n'y a pas de marchandises identifiées comme dangereuses qu'on peut accepter qu'elles soient déchargées sur le territoire national, parce que nous assurons les suivis en temps réel du mouvement de toutes ces marchandises qui rentrent du territoire national, de même que celles qui sortent de notre
pays.
Donc
on peut dire sans hésiter que, en ce qui concerne la traçabilité de toutes les importations, l'OGFREM est connecté au système de tracking international.
Nous sommes connectés effectivement au système de tracking international et aussi à d'autres outils de géolocalisation. Donc nous sommes en train vraiment de mettre les bouchées doubles pour que qu'aucune marchandise ne peut entrer sur le territoire national dès lors qu'elle n'a pas été identifiée par l'OGFREM, de même que toutes les sorties soient bien tracées et couvertes.
S'agissant de la couverture intégrale des exportations, est-ce que la tour des contrôles va permettre d'assurer la couverture de toutes les exportations, comme vous l'avez dit, sûrement? Parce qu'on sait qu'il y a cet éternel problème des terminaux, notamment pour des entrepreneurs ou des commerçants qui évoluent dans l'Est et même dans les centres, qui passent par Mombasa et Mombasa, si je ne m'abuse, ou encore au niveau de Nairobi.
Exactement, je crois que c'est un combat que nous sommes en train de mener, pas seulement seul en tant qu'OGFREM, mais aussi avec d'autres intervenants publics. Déjà, on tient à remercier les autorités du pays qui concentrent beaucoup d'efforts pour éviter que nos frontières ne soient poreuses. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, accepter qu'il y ait des entrées et des sorties sans pour autant que cela ne puisse être tracé. Et ensuite, par rapport à ce qui concerne la voie terrestre, nous sommes en train aussi de mettre en place un nouveau dispositif. Ce dispositif va consister à mettre des outils de tracking sur tous les véhicules qui entrent et qui sortent du territoire national. À partir de là, ça va nous permettre un peu de tracer ceux-là qui utilisent des voies de tourisme.
Il n'y aura pas une nouvelle taxe?
Non.
Qui sera imposée aux opérateurs économiques?
Il n'y aura pas, c'est-à-dire l'OGFREM...
Parce que la crainte, c'est là.
Nous pouvons rassurer les opérateurs économiques que c'est par rapport à tout ce que nous avons déjà aujourd'hui comme prélèvement, à tout ce qu'ils payent, que ce dispositif est mis en place. Il n'y aura même pas un centime de plus qu'on va leur exiger, mais plutôt on va assurer la transparence et la sécurité de leur cargaison à l'importation comme à l'exportation.
Voilà, merci de nous avoir éclairé là-dessus. Je me tourne du côté de Jean-Marie Numbi Yamba, sous-directeur, Tour des Contrôles, une nouvelle direction. Nous allons nous habituer actuellement à la Tour des Contrôles, mais d'entrée de jeu, la Tour des Contrôles, à croire le propos du DG, c'est comme une banque de données.
Tout à fait, c'est une grande banque de données. Je voulais rectifier, la direction, c'est la direction de gestion des instruments de traçabilité. Mmh. Et au sein de cette direction, il y a le service qu'on appelle Tour de contrôle. C'est effectivement une très grande banque de données que nous constituons au profit de tous les services publics qui interviennent dans les secteurs du transport et plutôt du commerce extérieur.
Donc avec multiples utilités. Alors qu'est-ce que l'État gagne? L'État congolais va gagner quoi concrètement s'il s'agit d'une banque de données?
L'État gagne déjà en ayant en amont les statistiques fiables sur toutes les marchandises qui entrent dans la République démocratique du Congo. L'État gagne dans la maximisation de recettes parce que à travers cet outil, on essaie de renseigner sur les véritables valeurs des marchandises avant qu'elles ne foulent les territoires nationaux.
Alors l'État, parce qu'il y a, vous avez dit les problèmes des statistiques, mais j'ai posé tout à l'heure la question aussi, c'est la lutte contre la fraude. Parce que là, vous ne serez pas seul, vous avez d'autres partenaires également.
Justement. Nous, déjà, cet outil donne des informations en amont, avant que la marchandise ne puisse arriver sur les territoires nationaux. Donc on peut déjà prendre des dispositions pour toutes les formalités ou toutes les manipulations qu'on peut faire avant que la marchandise n'arrive. Et de ce fait, ces informations déjà qu'on a en temps réel, et elles peuvent être déversées dans tous les services qui interviennent et ainsi prévenir à la fraude, à l'arrivée, parce qu'à l'arrivée on a l'habitude de manipuler les documents, de les falsifier, mais si on a déjà des informations au départ, cela devient difficile.
Ça c'est l'État, et que gagne l'opérateur économique?
L'opérateur économique, c'est le grand bénéficiaire parce qu'en ce moment-là, il fait ses transactions en toute sécurité. Il peut prendre des dispositions aussi déjà pour préparer son enveloppe de dédouanement parce qu'il a toutes les informations avant. Et ça lui permet de voir l'évolution de sa cargaison depuis le point d'embarquement, son évolution sur les trajets jusqu'à l'arrivée sur le territoire national.
Voilà, je serais tenté de poser la question directement au directeur général. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place un tel dispositif?
Je pense
vos prédécesseurs ne l'ont pas prévu. Vous ne les avez pas prévus.
C'est-à-dire, nous sommes
dans... Quel est le constat que vous avez fait? C'est comme si c'est le résultat, la résultante de l'état des lieux que vous avez fait en arrivant à la tête de cette entreprise.
Bien sûr, l'idée de la tour de contrôle avait déjà germé il y a quelques temps. Maintenant, là, nous sommes en train vraiment de matérialiser cette idée en mettant en place d'abord toute une architecture de télécommunications et qui nous permet aussi de nous connecter, comme je l'ai dit, au système de tracking international, qui nous permet aussi de nous connecter à des outils de géolocalisation. Et comme je vous l'ai dit, bientôt là, il y aura des dispositifs que nous allons placer sur tous ces véhicules qui transportent la marchandise congolaise. Et nous sommes en train de mettre ça pour arriver encore à améliorer davantage les suivis et la traçabilité des marchandises. Alors nous nous sommes dit, tirons profit des opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication pour que qu'on ait vraiment une véritable tour de contrôle qui trace à l'import comme à l'export les mouvements de toutes les marchandises qui entrent ou qui sortent du pays.
Donc c'est une nouvelle direction.
Donc c'est pourquoi c'est ça même le cœur. Nous appelons ça comme étant
centre névralgique.
Les centres névralgiques, voilà,
comme la NASA.
C'est la NASA de l'OGFREM. Et même la NASA du pays en termes du fret, parce que là on s'est dit, nous voulons mettre les bouchées doubles pour que qu'il n'y a rien qui entre sur le territoire sans que cela ne soit identifié.
Est-ce que vous avez pensé à former l'homme qui va y travailler? Parce que la fraude, c'est l'homme qui orchestre ça. Et la machine est utilisée par l'homme. Et quelle est la confiance qu'on peut donner à l'OGFREM en mettant ces dispositifs?
C'est un système qui s'autocontrôle. Les hommes sont là pour les manipuler, mais le dispositif qui est mis en place, je crois que vous avez eu l'occasion de visiter, c'est un dispositif qui permet lui-même d'avoir des informations de manière automatique. Mais ceux qui manipulent, ils ne font que manipuler la banque de données qui est là, et je crois que nous avons assuré suffisamment de
formation. Donc avec ça, vous allez minimiser la fraude au sein de la corruption, d'ailleurs, pour être clair. La corruption
comme
de,
les directeurs, des agents qui travaillent. Vous l'a dit, c'est-à-dire, grâce aux documents que nous collectons, nous injectons la vraie valeur des produits importés au niveau du cordon douanier, ce qui permet à l'État de maximiser davantage ses recettes. Et nous avons déjà des cas qui arrivent, il y a quelques temps qu'on a eu à les faire du côté de l'Ouganda. Je crois qu'à l'Est, la DGDA a multiplié par 5 voire par 6 ses recettes suite au travail qui est fait par l'OGFREM. Maintenant, avec la tour de contrôle, nous mettons encore les bouchées doubles. Et comme vous l'avez dit, ça contribue non seulement à la maximisation des recettes, mais ça aussi une contribution inestimable aux impératifs de la sécurité nationale.
Voilà, on va recueillir les points de vue des auditeurs. Comment la population pense, qu'est-ce qu'ils disent avec ces projets de la tour des contrôles, 081-890-6330 ou encore les
081-890-4969. Allô ? Allô ? Allô ?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de votre interview.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ce pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Parole aux auditeurs.
Il faut qu'on remercie de votre fidélité à Radio Okapi si vous nous rejoignez. Bienvenue dans cet échange citoyen. Alain Bolodjoa, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à vos invités, bonjour à tout le monde.
Quelle est votre réaction, Alain Bolodjoa?
Bon, je peux prendre le risque de dire que je suis séduit. Je suis séduit par l'idée des innovations. Parce que en gestion, lorsque vous avez de nouvelles idées, il faut apprendre à les apprécier. Mais il y a quand même des questionnements. Et votre question a tout son pesant d'or par rapport à la qualité de l'homme. C'est vrai qu'il y a des déclarations qui sont faites, c'est vrai qu'il y a un système qui est installé, mais il y a un problème de gestion du personnel. Parce que très souvent, on semble négliger cet aspect. Quel est l'état d'esprit des agents de l'OGFREM en ces moments précis? Parce que nous avons vu avec la DGDA, ils ont eu aussi à innover en termes de traçabilité, le système informatique et tout ça. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours des faiblesses. Parce que le système est maintenu grâce à l'apport de l'homme. Est-ce que le personnel est suffisamment outillé en termes de l'utilisation d'abord des équipements qui seront installés? Est-ce que l'agent, le personnel est suffisamment réarmé sur le plan mental? Parce que la fraude passe généralement par l'homme, ce n'est pas le système. Le système peut avoir des faiblesses, mais c'est l'homme qui manipule, qui peut arriver à faire en sorte que l'État puisse perdre au lieu de gagner. Mmh. Parce que dans sa globalité, l'idée est bonne. Parce que je prends, par exemple, lorsqu'on nous envoie un colis venant des États-Unis. Mmh. À partir de votre téléphone, vous avez la possibilité de savoir où précisément votre colis se trouve. Mais lorsque vous arrivez au niveau de Kinshasa ou au niveau de l'Afrique, dans ces moments-là que vous sentez qu'il y a un blocage, on peut vous indiquer, on vous dit, non, voilà, le colis a quitté New York pour Washington. Arrivé à Washington, ça part jusqu'en France. Ça vous indique que le colis a quitté tel point jusqu'à tel point. Mais arrivé au niveau de notre pays, ça ne passe pas. Ce qui veut dire qu'effectivement, cela n'est pas pris en charge par les systèmes. Là, c'est bon. Mais le problème maintenant de la gestion du personnel va justement dans l'idée de renforcer le système qui est mis sur pied et de garantir sa fiabilité. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il faut aussi prendre en compte la dimension anthropologique de l'homme. Il faut faire en sorte que l'homme ne soit pas lui-même le facteur du blocage du fonctionnement des systèmes. Parce que qu'est-ce qui s'est fait? Connaissant que les agents ne sont pas bien pris en charge, ne sont pas suffisamment motivés, eux-mêmes vont donner l'information sur les faiblesses du système. Mmh. Ils vous disent, non, voilà, par rapport à telle information, il faut faire ça. Comme ça, ça va échapper au contrôle du système, mais en fin de compte, l'État ne va pas gagner. Parce que nous ne pouvons pas leur demander de ne pas prendre des initiatives, mais nous leur demandons plutôt de mettre plus de sérieux dans l'homme, parce que c'est l'homme qui est l'acteur de son propre développement.
Mmh. Voilà.
Donc voilà pourquoi je constate qu'il faut non seulement former les agents, il faut revoir les systèmes de recrutement, il faut revoir les systèmes de gestion des carrières des agents, il faut faire en sorte que ces agents-là soient suffisamment motivés, il faut éviter de politiser tout ce qui s'est fait dans l'entreprise. Je suis sûr et certain qu'on peut faire...
Obtenir le résultat. Ouais. Merci beaucoup Alain d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission et d'apporter votre contribution à ces sujets. Merci beaucoup, merci infiniment. Francis, vous êtes avec nous?
Oui, Maître Francis Bissob.
Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre contribution?
Ah oui, je voulais aborder dans le sens du prédécesseur en micro. Il faudrait que le système soit suivi d'un aspect de gestion du personnel. Par exemple, l'aspect salaire, rémunération. Parce qu'on a compris que des fois, il y a des idées innovatrices dans certaines entreprises publiques qui sont des idées apprécié par tout le monde, mais aussi longtemps que, par exemple, le personnel ne se réjouit pas de ce qu'il touche le moins, c'est ce même personnel qui a tendance à monter des stratégies pour contourner ce que les gens pensent peut résoudre les coulages de recettes ou autre forme de corruption.
Mmh. Voilà.
J'ai lu l'idée est bonne, mais il y a vraiment beaucoup à faire en amont pour que la chose soit vraiment prise au sérieux.
Donc vous insistez sur la gestion du personnel.
Voilà.
Merci beaucoup, Maître Francis. Alors on va, je crois que la ligne s'est améliorée avec Marie-Paul. Marie-Paul, vous avez la parole. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour monsieur le journaliste et bonjour à vos invités et à tous les auditeurs de la radio.
Alors vous êtes à Kisangani, nous avons fait avec vous beaucoup d'émissions autour des difficultés qui traversent, des difficultés auxquelles font face les opérateurs économiques dans cette partie du pays, notamment avec les terminaux de Mombasa et de Nairobi. Est-ce que vous pouvez nous partager ces témoignages?
Oui, merci beaucoup. Avant de témoigner, je vais vous dire que de manière générale, lorsque nous observons la situation à la limite de la RDC, les esprits invertis savent que le zéro pour ces pays, c'est l'absence des esprits des lois. Et d'une part, et les problèmes d'hommes aussi d'autre part. Pourquoi je vous le dis, c'est en connaissance de cause. Parce que dans ces pays, nous avons des
Allô, Marie-Paul, on a du mal à capter vos propos. Est-ce que vous pouvez changer votre position de là où vous êtes? Parce qu'il y a des micro-coupures, ça ne permet pas de bien voir.
Oui, j'ai changé maintenant.
Ben, on va encore essayer, allez-y.
Oui, c'est en train de témoigner tous les pays. Les avertis savent que les zéro pour notre pays, c'est l'absence des lois qui ont aussi des preuves d'hommes. Alors, disons, c'est parce que lorsque nous voyons l'environnement général, nous sommes un pays qui comporte des bons dispositifs des lois, ces lois pouvaient absolument nous permettre à développer. Mais il y a combien d'hommes qui ne pas, et toutes ces lois, tous ces bons dispositifs sont dévoyés, et tout ce qui pouvait produire comme les effets escomptés ne sont pas au rendez-vous. Et c'est de cette façon-là que l'OGFM a fonctionné. Parce que si vous voyez comment les détournements, les coquitions, les corruptions ont été domiciliées, ça laisse quand même un désiré. Alors que ce sont des institutions qui devraient supporter les pays à avancer pour que les choses avancent. Et si nous allons, comme vous m'avez demandé les témoignages, nous allons dans nos frontières, vous allez voir que les détournements, c'est vraiment quelque chose qui est préparé à tous les niveaux.
Voilà, on a des petits soucis avec votre ligne, on ne sait pas, il y a des micro-coupures, par respect de nos auditeurs, on ne saura pas vous garder le plus longtemps possible, Marie-Paul. Le temps d'accueillir également à Peter Mabudi qui est à Kinshasa. Peter, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Jure, bonjour aux invités, je salue tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole, quelle est votre contribution à ce niveau d'échange?
Oui, merci Monsieur Jure, je pense que j'ai suivi les deux invités qui sont sur votre plateau, mais je pense que les questions que vous-même vous avez soulevées, Monsieur Jure, ce sont des questions vraiment profondes qu'il fallait nécessairement que les invités puissent nous éclairer là-dessus. Lutter contre une antivaleur que nous appelons la fraude, Monsieur Jure, c'est quelque chose que nous tous, nous sommes contents de lutter pour ça. Mais néanmoins, on doit nécessairement d'abord s'attaquer aux causes. Quelles sont les causes de la fraude au Congo? Je pense que les prédécesseurs ont eu à évoquer l'aspect, la gestion. Et on parlait de gestion du personnel, mais moi, je parle de gestion des sous-humains. Si on parle de gestion des sous-humains, ça englobe plusieurs aspects là-dedans. Motivation, gestion des carrières, les conditions même socio-professionnelles des agents. Mais bien plus, M. Juyer, je pense que les invités qui sont là, nous avons un problème au Congo. Le Congo est considéré comme une poubelle de tous les pays du monde où des choses entrent et ça sort sans qu'il y ait le service de l'État pouvant faire contrôle. Mais le contrôle, c'est une mission vraiment de routine pour tout gestionnaire qui s'avère indispensable. Mais néanmoins, j'ajoute encore un aspect de plus, c'est lié au contrôle même. Le contrôle, vous avez dit la fraude. La fraude, nécessairement, c'est une antivaleur qu'il faut nécessairement donner. Mais la fraude pourra aussi engendrer la corruption, comme vous l'avez posé aux invités. Ça pourra engendrer la corruption si au préalable, les causes ne sont pas nécessairement prises en compte par les dirigeants. Et également aussi, je me rappelle de tristes mémoires sans se limiter qui avait dit « Le poisson commence à pourrir par la tête ». Et même qu'ils sont dirigeants, si néanmoins les agents qui seront commis à ce service et qu'eux-mêmes commencent à dire « laissez telle personne-là, ça c'est ma marchandise, ça c'est mon colis, tout ça », je pense que même les agents qui seront sur le terrain seront fatigués.
Et même aussi
vont se mêler dans les jeux. Je pense que nous devons nécessairement d'abord interroger notre gestion.
Il faut une rigueur du côté des dirigeants de cette entreprise, c'est ce que vous proposez.
Parfaitement, un modèle, un chef c'est un modèle, Monsieur Juer. Un chef donne par un exemple, prêche par un exemple. Si un chef ne donne pas un bon exemple, même les agents vont suivre. Je pense que les dirigeants qui sont là doivent vraiment revoir la gestion d'abord interne et du personnel de manière générale.
Merci beaucoup, Peter. Vous avez évoqué la question des conditions socio-professionnelles et il faut les sérieux du côté des dirigeants pour arriver finalement au résultat. Alors, je me tourne du côté du directeur général. Après avoir écouté toutes ces appréhensions des uns et des autres et même quelques propositions, je crois, je prends les cas d'Alain Bolodjoie qui a salué l'idée dans l'ensemble, mais en y mettant quelques réserves et quelques inquiétudes. Alors, comment répondez-vous?
Oui, d'emblée, d'abord, je tiens à remercier tous les intervenants pour les encouragements et d'avoir salué l'initiative qui a été mise en place. Donc, on est très flattés, on est très motivés par leurs encouragements. Mais je voudrais vous rassurer sur deux choses. D'abord, la tour de contrôle, elle est installée ici à Kinshasa. Tous ceux-là qui sont en train de travailler, ils sont dans les bureaux de l'OGFREM ici. Ils ne rentrent pas en contact avec les importateurs ni les exportateurs. Vous savez, dans le cadre de la digitalisation et dans le cadre de la fraude, on évite plus que l'agent des services publics de l'État, on préfère plutôt diminuer les contacts entre l'opérateur économique et l'agent. C'est de ces contacts-là que beaucoup de choses commencent à naître. Déjà, nous sommes à ce niveau-là, on est très loin, on est en train de faire le monitoring du système sur l'ensemble du pays, quels que soient les postes frontaliers, et nous saisissons nos informations à l'origine. Si je prends le cas, par exemple, des importations, nous avons toutes les informations à l'origine. Je vous donne un exemple. Si on a un conteneur qui vient de Nguanzou, à partir, avant même que les bateaux ne quittent Nguanzou, l'OGFREM a toutes les informations sur ces conteneurs, la valeur et les contenus. Déjà, à partir de ces jours-là, vous pouvez savoir quels sont les droits de douane que ce conteneur peut payer. Et là, c'est plus facile. Donc, quand vous arrivez à la frontière, sur base d'informations de l'OGFREM, on n'a plus à discuter. On vous dit, monsieur, c'est tel conteneur, il est parti de Nguanzou, il est passé par tel port de transit, il a fait un transbordement à Pointe-Noire. Quand il arrive ici, il coûte autant, voici les droits à payer. Et cette information existe. Alors, ça, c'est un moyen pour leur dire, il y a ces efforts qui sont faits pour que, à l'avance, qu'on ait ces informations. À l'extérieur du pays, on a ces informations avant que la marchandise n'arrive. Deuxièmement, ils ont mis beaucoup d'accent sur un élément qui nous tient à cœur, c'est la gestion des ressources humaines. Nous-mêmes, au niveau de l'OGFREM, dans le cadre de notre politique, nous avons mis l'homme au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi vous verrez qu'à l'OGFREM, on a initié, aujourd'hui, on est à la 8e série de formations.
Je profiterai d'ailleurs pour vous poser une question de curiosité.
Bien sûr.
En 2 mois, depuis que vous êtes à la tête de l'OGFREM, qu'est-ce que vous avez trouvé? Un petit bilan pour vous-même.
Ah, bon.
Si la gestion du personnel.
Bon, d'abord, en 2 mois, je pense qu'il n'y a plus de grand l'OGFREM. Depuis notre nomination à ces jours, il y a un calme, il y a un climat social apaisé qui règne. En 2 mois, on a été en mesure de former aujourd'hui près de 500.
Une nouvelle délégation syndicale, semble-t-il.
On a mis en place une nouvelle délégation syndicale. On a remis toutes les activités syndicales sur l'ensemble du pays. On a payé les salaires dans les temps. On a même augmenté les salaires. Ça, je vous l'ai dit. On a essayé. Et les salaires, nous les payons sur fonds propres. Pas sur les dégouverts bancaires. On a mis en place un programme d'assainissement financier qui fait aujourd'hui que tous les comptes bancaires de l'OGFREM, aucun compte n'est au rouge. Et on a essayé de motiver davantage le personnel en améliorant ses conditions de travail. Et j'aimerais insister sur la formation parce que c'est ce qui tient à cœur vos auditeurs. Aujourd'hui, nous avons ouvert une 8e série de formations consécutives dans toutes les filières. Ce sont les agents de l'OGFREM qui viennent de l'ensemble du pays qui viennent participer à ces formations pour qu'ils soient motivés, pour qu'ils soient bien payés. On a même essayé d'intégrer certains éléments dans la rémunération pour qu'il y ait accroissement des salaires, de façon qu'ils soient bien formés, bien motivés et qu'ils puissent donner les résultats attendus d'eux-mêmes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de donner un nouvel élan, une nouvelle image à cet office-là pour que cet office arrive avec l'ensemble de son personnel à jouer le rôle qui lui est attendu de contribution à la maximisation des recettes de l'État. Et je crois que nous avons pris bonne note de leurs interventions et de leurs suggestions. Et nous allons encore davantage améliorer cette gestion du personnel, sensibiliser davantage, nous le faisons déjà, pour que eux-mêmes, qui connaissent les secrets, qui ne soient pas tentés de rentrer dans ces combines.
Est-ce que vous ne redoutez pas, en tant qu'intérimaire, vous avez remplacé un intérimaire.
Oui.
Si je relis encore le décret du ministre, l'arrêté du ministre, vous nommant, vous êtes un intérimaire qui a remplacé un intérimaire. Vous ne redoutez pas de mener toutes ces actions et de vous arrêter quelque part.
Pourquoi je dois m'arrêter? Déjà, vous savez, le pouvoir de nomination revient au chef de l'État.
Est-ce que ça vous met mal à l'aise, cette question?
Non, pas du tout. Ce qui est plus important, c'est ce que nous faisons chaque jour. Et le reste est là, nous nous remettons à la disposition, donc au pouvoir discrétionnaire, principalement du chef de l'État qui peut nommer qui il veut. Mais nous nous faisons un travail qui montre que chaque jour nous pouvons travailler dans le cadre de la vision du chef de l'État et ceux qui viendront, ils doivent réaliser le même travail pour que cela puisse aller. Quand on est mandataire, on a un temps déterminé, il faut se dire, je suis là un jour, demain je pourrai partir. Et ça, ce n'est pas le problème. Le plus important, c'est ce qui fait que...
Alors, quel est-il du contrat de performance?
Le contrat de performance
signé au directeur.
C'est aussi quelque chose sur laquelle nous avons mis beaucoup parce que on évite la routine. Il ne faudrait pas que quand nous gérons la société là, qu'on ait l'esprit un peu de fonctionnariat dans le sens péjoratif du terme. Donc on est là, sachant que on est là, même si on ne produit pas, l'argent va venir de quelque part. L'idée c'est de montrer que nous sommes là, nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons des résultats, nous avons des performances à signer. Et chaque direction s'est engagée, que ce soit les directions centrales ici, que ce soit nos entités à l'intérieur du pays, même nos représentations à l'étranger, chacune s'est engagée à atteindre un certain nombre de résultats, d'objectifs. Et nous avons signé des contrats de performance qui vont servir de base à l'évaluation de tous ces cadres et à l'animation de leurs entités respectives.
Alors, on va revenir à vous pour parler des dispositifs contraignants que vous avez mis en place pour faire le suivi de ces contrats de performance. Mais en même temps, je me tourne du côté de Jean-Marie Numbi Yamba, sous-directeur Tour de Contrôle, la direction de gestion des instruments de traçabilité. Et il y a un auditeur qui a évoqué les problèmes de recrutement. Les personnels qui travaillent au niveau de ces centres névralgiques de l'OGFREM. pour réellement éviter la situation de Tchernobyl au niveau des logements FREM. Alors, quelles sont les garanties, les dispositions mises en place à votre niveau pour que les agents qui vont travailler soient vraiment objectifs et intègres?
Merci pour la question. Comme venait de le dire Monsieur le directeur général, l'homme est au centre de l'activité au sein de l'OGFREM. Et dans cette nouvelle direction de gestion des instruments de traçabilité, le recrutement s'est fait à l'interne, où on a pris des gens qui ont évolué dans des filières techniques, qui ont la maîtrise...
Les informaticiens, notamment.
Oui, qui ont la maîtrise de l'outil informatique, et non seulement de l'outil informatique, aussi de la connaissance de l'interprétation de tous les documents qui entrent dans la liasse documentaire qui accompagne les marchandises. Et ça fait que... avec la formation en continu, parce que la formation ne s'arrête pas, avec la formation en continu, on essaye de capaciter cet agent qui est commis à la tour de contrôle pour qu'il soit en mesure de donner le meilleur de lui-même et de savoir interpréter tout ce qui se passe dans
voilà.
Le commerce.
Alors, si vous le permettez, on va passer de l'autre côté du standard. Emina est déjà là. Emina, vous êtes à Bukavu? Emina?
Bonjour à tous les auteurs de la radio, ainsi qu'à l'équipe qui vous accompagne, M. JR.
Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre contribution à ce niveau d'échange?
Bon, nos services étatiques qui ne font plus leur travail tel que souhaité par le gouvernement, entre autres le GFREM, parce que d'abord, d'entrée de jeu, je peux prendre le cas de Bukavu, où le gouvernement avait interdit toute navigation nocturne. Mais le lendemain de cette décision, on a constaté à Idju, ici, dans à Idju du Nord, mm-hmm. un bateau plein de ciment, c'est ce qu'on a dit, mais c'est la population qui a constaté que les bateaux avaient traversé la voie maritime cette année. Alors, c'est le grand problème d'abord de la RDC, si chaque service faisait ce qu'il devrait faire, nous n'allons pas assister à tout ce que nous sommes en train de faire ici. L'OGFREM dit que, le directeur de l'OGFREM dit que l'homme est au centre de leur activité. Mm-hmm. Mais nous traversons, quand nous sommes en train de voyager par la voie maritime, c'est autre chose. On ne contrôle pas les documents, mais on peut dire qu'on est en train de contrôler seulement les billets. Il est en train de dire, bon, nous avons espoir, parce que c'est une nouvelle équipe, M. JR, que les choses peuvent s'améliorer. Mm-hmm. Mais il faut savoir, il faut que le directeur mette en tête qu'il est en train d'hériter l'OGFREM dans une situation très cruciale. Très cruciale, pourquoi? Parce que les gens étaient déjà mal habitués dans le trafic d'influence et autres choses. L'insécurité, ce sont les gens là. Beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes qui, sur le plan sécurité, se passent sur la voie maritime, M. JR. Mais voilà. C'est inconcevable que les gens de l'OGFREM sont là, mais on constate, comme le cas d'Idju ici que je viens de vous dire, on constate on a demandé aux propriétaires de ces bateaux, qu'est-ce qui est là-dedans? Ce sont les sacs de ciment. 10 000 sacs de ciment pour un Idju, où ils sont même incapables de consommer 1 000 sacs par mois. Tout ça, ce sont si on ne peut pas, si il n'y a pas d'incapacité dans le chef de ces gens, de ces agents-là, donc il y a peut-être voilà. aussi l'incapacité.
Merci beaucoup.
Il faut d'abord commencer à restituer les choses.
Je peux
proposer au gouvernement de laisser seulement le GFREM le suivi et le contrôle. Et les autres attributions que le GFREM avait, on peut donner ça à un autre service pour au moins peut-être alléger la tâche à ces agents.
Pour que le GFREM reste focalisé sur eux. Mais voilà, le GFREM ne fait pas le travail à lui seul, parce qu'il y a des partenaires qui sont dans le processus d'importation et exportation. Les partenaires qui sont là, nous l'avons dit d'ailleurs en début de l'émission, peut-être que vous nous avez pris en cours. Merci beaucoup, Emina. Alors, Justin, vous êtes à Colésie, je crois. Non, Justin, vous nous avez appelé. Bonjour, Justin. Justin, vous êtes à Bounia. Justin, vous êtes à Bounia. Alors, on va prendre Jérémy. Jérémy Lubumbashi. Jérémy Lubumbashi. Bonjour, Jérémy.
Oui, bonjour, M. Gien. Bonjour également à l'invité. Je pense que, d'entrée de jeu, moi, je commence par présenter des regrets, n'est-ce pas, vis-à-vis, hein, n'est-ce pas, de cet office, parce qu'il viendra qu'il y a eu un peu bien de choses et rebondissements. Quant à qui va diriger cette entreprise, bon, moi je me dis, mais vous savez, lorsque la politique ou les politiques se mêlent dans une entreprise ou dans des entreprises, c'est là que maintenant pose le problème d'avance, des avancées. Moi je me dis que la politique ou les politiciens viennent que brouiller les bonnes avancées des entreprises. Moi je pense qu'il faut dès lors, dès maintenant, commencer à prendre d'abord
les choses. Si je me mets à l'esprit de vos propos, vous dites que le changement intempestif crée l'instabilité dans nos entreprises.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce jour, je pense que notre pays, le jour que on comprendra qu'il faut laisser les technocrates, les gens bien placés pour diriger les entreprises, c'est alors que les choses sont. Parce qu'il vous souviendra, lorsqu'on place un directeur là-bas, ça ce n'est pas un secret fonctionnaire. Il est là dans les comptes de partage des gâteaux. Point barre. Et quand il travaille d'accord avec celui qui l'a placé là-bas, à qui il doit rendre compte.
Mais voilà, je profite d'ailleurs pour informer à ceux qui nous suivent, parce que M. Lems, qui est à la tête de l'OGFREM, aujourd'hui a été plusieurs fois nos invités. Et parmi nos invités, les panels que nous avons utilisés en économie, disons, l'expert en finance et économie, que je sache, après avoir checké d'ailleurs pour l'inviter, il n'est pas politique. Il n'est pas politique, je crois, Jérémy. Vous avez participé dans plusieurs émissions et vous avez toujours suivi l'EMS. Il est apolitique. Ah oui, raison pour laquelle nous l'avons reçu ici comme économiste.
Et je voudrais aussi parler d'un point très capital, Monsieur Gère.
Allez-y.
Et je vous dis ceci. Vous savez que pour que c'est une bonne chose de placer la tour de contrôle. Ça, je salue de lui voir. Mais je voudrais dire à Monsieur le Directeur, vous savez que pour que réellement le GFREM puisse connaître du succès, la première des choses, il faut d'abord commencer par changer la mentalité des gens là-bas. La gestion que nous voulons ici de traçabilité ne passera que lorsqu'il y a la bonne prise de conscience, lorsque les gens réellement, même si vous pouvez placer ça, mais lorsque la mentalité de l'homme concret ne s'émancipe pas dans les changements, nous allons tourner à rond. Et moi, je voudrais ici qu'on puisse organiser des ateliers ou des états généraux où on doit réellement mettre les choses au clair. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses aillent de l'avant? Vous pouvez avoir de bonnes intentions, malheureusement, étouffé dans la coquille des intérêts partisans, des intérêts politiques.
Alors, merci Jérémy. Alors, on va accorder la parole à notre personne qui a appelé. Il y a Justin. Justin, vous êtes là? Abounia.
Oui, je suis là, monsieur JR. Bonjour à notre invité, le directeur de l'OGFREM.
Voilà, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire?
Oui, monsieur JR. En tout cas, c'est déplorable à la République démocratique du Congo. C'est un pays riche.
Justin, avant de poursuivre, vous avez été sur les lacs Albert. Qu'est-ce que vous avez constaté?
Oui, en tout cas, monsieur JR, moi j'étais au niveau des lacs Albert le vendredi passé. Mm-hmm. En tout cas, c'est déplorable, monsieur JR. Ce que j'ai vaincu, il y avait, en voyant tous les services qui sont là, il y a les services de l'OGFREM, il y a les services de DGDA, donc tous les services étatiques, monsieur JR, ce sont même, les gens parlent, c'est vraiment la langue maternelle, parce que le service n'est pas organisé, particulièrement celui de l'OGFREM. Donc on amène quelques membres de la famille, et donc ce sont des engagements mafieux. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ce pays sera organisé, parce qu'il y a toujours des corruptions, il y a toujours des haines, on engage les gens selon la volonté même des gens, selon la tribu, selon une descendance.
Mais là, je comprends votre souci.
Qu'est-ce que peut-être le directeur peut dire pour l'engagement? Au-delà de ça, monsieur, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ici à République démocratique du Congo en voyant tout ce qui se passe? Parce que,
ben voilà,
je ne sais pas,
vous ramassez peut-être
le dossier qui viendra peut-être donner la paix ou organiser tous les services.
Merci beaucoup, Justin.
Bon,
alors, on va parler de Patrice. Patrice, vous êtes Patrice Moudéroi, vous êtes à Bukavu. Bonjour, Patrice.
Bonjour, monsieur Hier. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, Patrice, en lisant votre commentaire, vous avez dit la décision de l'OGFREM n'est pas à saluer, selon toi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, moi, je pense que la décision de l'OGFREM ne pourra pas tant soit faire résoudre la question de la fraude dans ce secteur. tant que l'homme congolais seulement, tant que l'homme congolais ne sera pas lui-même le vrai responsable de la gestion de la chose publique, tant qu'on ne pourra pas faire comprendre à l'homme congolais comment gérer la chose publique, tant qu'il y a quelqu'un derrière lui pour le surveiller. Et donc, je pense que cette décision ne pourra pas apporter tant de solutions. Et donc, la question qui est principale serait de voir comment mettre en place un guichet unique afin que tout assujetti sache où payer la taxe ou bien l'impôt et à qui, auprès de qui et comment il doit payer ça. Puisque à un certain moment, on se rend compte qu'il y a plusieurs agents de l'État sur le terrain. On ne sait pas qui fait payer quoi, où et quand il dépose ça où. Et donc, à un certain moment, on laisse la population dans une question qu'on n'a pas de réponse, sur laquelle on n'a pas de réponse.
Voilà, merci beaucoup. Merci Patrice Moudéroy. Alors François, vous êtes à Mouéka. Bonjour François. François Okoudji, vous êtes avec nous? Voilà, le temps que la ligne s'améliore, on revient dans ces studios avec vous, Monsieur Lems Kamoignan, directeur général AI de l'OGFREM. Vous avez suivi les auditeurs, mais j'essaierai de tenter ces problèmes. La question que je vous avais posée tout à l'heure sur les terminaux, c'est vrai, la tour de contrôle permet également d'assurer la couverture de toutes les exportations, comme vous avez dit. Mais on sait qu'il y a ces déficits des terminaux que nous avons à nous personnellement, et surtout pour nos frontières qui sont poreuses. Est-ce que vous avez pensé à résoudre d'abord ces problèmes?
Oui, je pense que peut-être... Je dois être clair là-dessus, c'est-à-dire l'OGFREM n'est pas le seul intervenant, vous l'avez dit. Nous avons nos attributions. À partir des informations que nous collectons sur toutes les marchandises qui doivent être importées et exportées, c'est là que réside notre principale contribution. C'est-à-dire nous avons cette capacité d'avoir les vraies informations et de les mettre à la disposition de tous ces services qui appliquent la fiscalité à l'entrée ou à la sortie du territoire national. Deuxième contribution que l'OGFREM donne, c'est assurer, c'est suivre la traçabilité en temps réel du mouvement de toutes ces marchandises. C'est ça notre travail, gérer les frets. Mais les questions qui sont soulevées par rapport à la fraude, à la corruption, ces questions méritent en tout leur pesant d'or et il faudrait que l'ensemble des services qui interviennent, par exemple, aujourd'hui vous avez Ségus avec les guichets uniques, qui est une plateforme là où on met toutes les informations. Est-ce que ces informations sont-elles exploitées? Est-ce que ces informations-là ne sont pas mises de côté pour que les gens se disent, écoutez, faisons des choses en dehors du système. C'est là qu'intervient l'homme, mais cela ne peut pas nous décourager. Et tant qu'on vivra sur la terre, il y aura des problèmes. Tant qu'on mettra en place les systèmes, ceux qui sont habitués à frauder, ils ont aussi leur laboratoire. Maintenant, les services de l'État doivent être plus forts pour avoir une longueur d'avance sur tous ceux-là qui veulent développer des mécanismes parallèles de fraude. Et c'est à cela qu'on s'attelle aujourd'hui. Et nous avons cet instrument que nous développons pour permettre à ce que les services de l'État qui doivent appliquer la fiscalité à l'entrée et à la sortie du territoire au poste frontalier puissent disposer de vraies informations, qu'il n'y ait pas de cargaisons qui disparaissent dans la nature, qu'il n'y ait pas des valeurs qui ont été trafiquées. C'est ça le travail de l'OGFREM. On vient en appui à la DGDA, on vient en appui à l'OCC, on vient en appui...
Il y a un auditeur qui a eu l'impression que l'OGFREM, par rapport aux missions qui lui est assignées, qu'ils sont assignées, donc il se retrouve, disons, débordé, il faut le dire.
On n'est pas débordé, peut-être ils ne connaissent pas exactement l'étendue des missions de l'OGFREM. Parfois, on cherche à attribuer à l'OGFREM même ce qui ne revient pas. Nous gérons les frets, nous gérons les mouvements des importations et des exportations. Nous
devons gérer la douane.
On ne gère pas la douane. On ne gère pas les contrôles, par exemple, de la qualité au niveau de l'entrée qui revient à l'OCC. Mais nous, par notre travail, nous devons nous assurer que nous avons une traçabilité, une couverture de toutes les importations et exportations et on communique la vraie valeur des produits qui ont été exportés et importés. On communique les identités des opérateurs économiques. On communique les identités des transporteurs. On communique les références des navires ou des véhicules qui ont pu les transporter. On communique même les identités des exportateurs à l'extérieur. Quand il y a un problème, nous savons avoir toutes ces informations et retracer chaque intervenant dans les secteurs du commerce international. Et c'est à cela que nous disons, nous avons une banque de données qui est une mine riche, qui peut nous permettre aujourd'hui s'il y a un problème. Par exemple, si vous me dites, écoutez, on a trouvé un conteneur avec des armes au niveau de Beni. À partir du numéro de ce conteneur, je peux vous dire toutes les personnes qui ont été impliquées dans les mouvements de ce conteneur à partir de son point d'origine et à partir de son lieu de chargement.
Donc vous êtes un bras séculier important.
Nous sommes un bras séculier de l'État dans les domaines aussi de la sécurité nationale. Effectivement, nous sommes aussi un bras séculier de l'État dans la gestion du fret et aussi dans la maximisation des recettes parce que nous communiquons aux cordons douaniers la vraie valeur. Maintenant, ceux qui, avec les informations de l'OGFREM, ceux-là qui les exploitent,
ils doivent les exploiter à bon escient. Et c'est à ce moment-là que nous plaidons pour cette collaboration entre les différents services de l'État pour que chacun fasse sa part.
Notamment la l'OGFREM, SCTP, fait sa part. SCTP, voilà. FPI,
FPI, exact. Voilà. DGDA et les autres.
Alors, monsieur Jean-Marie Noumbi, est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur parce qu'on a compris la capacité de l'OGFREM de gérer les frettes, mais est-ce que vous pouvez nous faire une idée sur les points de sortie des importations et des exportations à travers le pays? Vous en gérez combien exactement?
En fait, je ne saurais pas dire il y en a combien, en fait, parce que...
Parce que nous avons quatre zones économiques, oui. C'est pour nous faire une idée de manière générale.
Notre pays est un pays semi-enclavé. Nous dépendons en grande partie, pour les ce qui concerne les importations, des ports de transit qui se trouvent dans des pays étrangers. Et c'est de là que nous réacheminons par petits navires pour ce qui concerne les frettes maritimes qui peuvent arborer facilement le bief maritime congolaise. C'est notamment le port de Pointe-Noire, le port de Dar es Salaam, le port de Mombasa, le port de Durban, un peu plus le port de Cameroun. Et en Côte d'Ivoire aussi.
Mais la même question que j'ai posée au directeur général tout à l'heure, vous ne pensez pas qu'il y a nécessité d'avoir nos terminaux? Parce que finalement, les opérateurs économiques se retrouvent comme si ils sont victimes de surtaxation. Et dans le pays extérieur, et chez nous.
C'est l'idéal. D'ailleurs, nous saluons l'avancée du projet.
Je ne sais pas si c'est le projet que vous avez, des ports secs, par exemple, au niveau de l'OGFREM. Je ne sais pas si c'était au niveau de l'OFIDA ou c'était, pardon, la DGDA ou c'était au niveau de l'OGFREM, des ports secs.
Justement, c'est dans nos missions, une mission de facilitation que nous avons, que l'État congolais nous a donnée. Je disais donc, nous saluons déjà l'avancée du projet de port en eau profonde que pilote le Canissier, le président de la République. Et nous, en tant que office de gestion, en tant que facilitateur, conseil de chargeur, nous développons justement ces plateformes multimodales pour aider les pallier à la difficulté que nous avons suite à la situation géographique de ce pays. Vous avez parlé de ports secs. Justement, c'est dans nos missions. Il y a un grand qui est en chantier au niveau de Kasumbalesa. Nous avons de projets de développement de ports secs un peu partout à travers la République, justement pour permettre à ce que aux opérateurs économiques, à l'exportation ainsi qu'à l'importation.
Où l'État développe les concepts zones économiques. Voilà. Est-ce que vous accompagnez ces projets des zones économiques en y installant donc des ports secs? En fait, c'est ça le.
Oui, justement, c'est pour qu'on puisse avoir des espaces de regroupement des frettes avant leur exportation ou après l'importation, de voir comment les réacheminer à travers les différents territoires de la République.
Avant d'accorder la parole à deux ou trois autres auditeurs, alors je reviens à vous, monsieur le directeur général, sur les avantages qu'offre aujourd'hui ces dispositifs dénommés la tour des contrôles. Vous l'avez dit, et les termes commencent un peu à nous séduire également lorsque vous parlez du centre névralgique de l'OGFREM qui constitue la NASA, en fait. Alors, parmi les avantages, c'est aussi anticiper et optimiser les opérations portuaires par la réduction des frais. Alors, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cela? Comment les comprendre?
Ça, c'est un avantage pour un opérateur économique. Parfois, les gens sont surpris. Si vous allez, par exemple, au port de Matadi, vous allez trouver qu'il y a des gens qui se disent que le conteneur est arrivé. C'est à l'arrivée du conteneur qu'ils commencent à chercher les moyens pour dédouaner. Et après, ils tombent dans les magasinages avec tous les frais qu'il y a. Or, avec ces systèmes, on vous informe déjà à l'avance que votre conteneur va arriver. Il est, par exemple, déjà à Pointe-Noire, il arrive dans 2 jours, et à ce moment-là, ça peut vous permettre de prendre les précautions, une fois qu'il est là, que vous puissiez les dédouaner. Et là, c'est un avantage qui permet à l'opérateur économique. Ça permet aussi à l'opérateur portuaire de savoir que dans 3 ou 4 jours, il y aura autant de bateaux qui vont accoster. Comment il va, par exemple, arriver à planifier l'utilisation de ces quais, l'utilisation de ces moyens techniques pour que, une fois que les bateaux soient là, qu'ils puissent être dédouanés rapidement, sans pour autant qu'ils soient bloqués pendant longtemps au mouillage. Mm-hmm. C'est dans ce cas-là qu'on parle de l'optimisation. Mm-hmm. Et ça permet aussi au guichet unique de savoir que, en tout cas, il faut qu'au niveau de la plateforme, on aura des envois énormes ou bien des arrivées énormes et il y aura suffisamment d'opérations à traiter. Comment nous prenons une disposition pour faire en sorte que nous puissions accélérer les dédouanements et diminuer les temps de transit au niveau du port, surtout en matière où la capacité du port est limitée, il se pose des problèmes d'engorgement et ça relève de la planification. Donc grâce à la tour de contrôle, tous ces services de l'État, y compris les opérateurs économiques, peuvent prendre à l'avance des dispositions pour prendre en charge les bateaux et les conteneurs une fois qu'ils sont au port.
Voilà, je crois que vous allez vous compléter quand on parle de la ferry dans ces dispositifs. Et c'est quoi exactement la ferry?
Le directeur peut expliquer.
Merci. La ferry, c'est la fiche électronique de renseignement à l'importation. C'est tout ce qu'on a dit ici qui se retrouve comme information saisie sur ces documents électroniques.
Donc l'opérateur économique peut télécharger en ligne et faire le suivi?
Oui, il peut télécharger en ligne et le GFM peut lui donner un accès pour faire la traçabilité de sa marchandise, la géolocaliser du point de départ jusqu'au point d'arrivée.
Et bon, je ne sais pas, la fiche électronique des renseignements à l'exportation, ça sert à quoi concrètement?
C'est justement dans le mouvement inverse. Lorsqu'on exporte la marchandise, on prend ces documents qui nous permettent d'avoir des informations pour la marchandise qui sort du territoire national, son point de sortie.
Donc l'opérateur n'a plus besoin de se déplacer pour aller poser des questions à des individus. Il peut tout contrôler à partir de ces dispositifs mis en ligne.
À partir de ces dispositifs électroniques mis en ligne, oui.
Voilà. Alors, donc on va aider également les auditeurs qui sont scientifiques. Parce qu'il y a également des avantages à tirer de ce côté-là, monsieur le directeur général.
Bien sûr, parce que la tour de contrôle, comme on a dit, sur base des informations que nous manipulons, ces informations représentent une banque de données. Et là, JR, laissez-moi vous informer que ça a été une innovation de l'OGFREM il y a 5 ans, parce que tous les systèmes de gestion du fret, ils étaient gérés par des étrangers. L'OGFREM n'avait pas lui-même un dispositif pour gérer les frets. Toutes les applications informatiques étaient gérées par l'étranger. Donc, les données qui constituent les données économiques et commerciales de la RDC étaient gérées à l'étranger. Mais aujourd'hui, vous avez toutes les données économiques et commerciales de la RDC ici au niveau de l'OGFREM. Mmh. Ça peut permettre la planification pour le gouvernement, ça peut permettre aux chercheurs de faire leurs études, les scientifiques de faire des analyses, ça peut permettre même aux investisseurs de regarder quel est le potentiel en termes d'import-export et sur quels produits il faut par exemple être focalisé. Donc, vous avez une mine d'informations qui regorge aujourd'hui l'OGFREM et cette mine d'informations a plusieurs usages en fonction de l'approche ou de l'intérêt des différents intervenants, chercheurs, opérateurs économiques, investisseurs, pouvoirs publics, États, ceux-là qui peuvent faire n'importe quoi. Donc, ils ont devant eux une mine d'informations qui est la banque de données de l'OGFREM.
Donc, la tour de contrôle nous permettra de nous faire de manière claire une idée sur les niveaux d'exportation et les niveaux d'importation.
Tout à fait. Voilà.
Voilà, monsieur le directeur général de l'OGFREM, si cela ne vous dérangerait pas, quel est le dernier mot qu'on peut vous accorder?
Nous devons faire confiance à notre pays, à nos dirigeants et à notre capacité de relever les défis. Et l'OGFREM essaie de donner déjà les tons en montrant que il est encore possible de faire davantage pour ces pays. Et si chacun de nous fait sa part, je crois que ça pourra aller de l'avant.
Lems Kamoania, directeur général de l'OGFREM, merci de nous avoir accordé cette interview. Et nous disons également merci à Jean-Marie Numbi Yamba, sous-directeur, tour de contrôle, direction de gestion des infrastructures de traçabilité. C'est par ici que nous terminons ce programme sur la fréquence de la paix qui a tourné, qui a porté autour de ces nouveaux dispositifs mis sur pied par l'OGFREM, par la direction générale de l'OGFREM pour aider tant soit peu les opérateurs économiques, l'État congolais ainsi que d'autres acteurs qui entrent en ligne de compte de l'importation et exportation des marchandises. Alors, c'est ainsi que nous disons également merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette émission, ceux qui ont réalisé et produit ces programmes. On se retrouve avec vous demain dans un même programme de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et au revoir, monsieur le directeur, au revoir, monsieur le sous-directeur.
Merci. Au revoir, merci.